Les rendez-vous.
The meeting.
Les rendez-vous.
The meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous.
The meeting. Les rendez-vous.
L'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous.
Les sans les roues.
Les.
C'est dans le.
Les lents des roues.
Le. En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Chers amis auditrices et auditeurs de RDL 68, fréquence 103.5, bien le bonjour. Aujourd'hui, dans les rendez-vous de l'Opéra Studio, je reçois un jeune comédien, Monsieur Yann Del Pupo. Cher Yann, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Et tout de suite, cher Yann, la première question, de quelle origine est ton nom ?
De quelle origine est mon nom? Eh bien, c'est d'origine italienne. J'ai des grands-parents des deux côtés de la famille qui sont d'origine italienne. Voilà.
Donc, le soleil dans ce studio ce matin?
Exactement, le soleil dans ce studio.
Merci
bien
beaucoup.
Que quand je regarde par la fenêtre, c'est un petit peu brumeux ce
oui,
matin.
Oui, mais il n'est pas loin, il est là-haut, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Alors, j'ai fait ta connaissance sur la comédie Les Fantastiques, la comédie musicale Les Fantastiques, qui a été donnée en 2023 à l'Opéra National du Rhin et qui est reprise dans la saison 25-26. Production 100% Opéra Studio, puisque 5 chanteurs de l'Opéra Studio participent à ce spectacle, 3 comédiens dont tu fais partie,
effectivement.
Les 2 pianistes de l'Opéra Studio en alternance et une harpiste porte ce spectacle qui a été mis en scène par Myriam Marzouki. Et donc j'ai eu envie, plutôt que de recevoir toujours des musiciens, des chanteurs, bon ça va, c'est sympa, mais bon, de recevoir un comédien. Et tu es passé par là
et
tu as accepté mon invitation et je t'en remercie à nouveau. Alors, depuis quand es-tu comédien, chère Yann ?
Alors, depuis quand je suis comédien ? Depuis quand j'ai le statut d'intermittent ? Depuis quand
depuis
j'ai quitté
quand
l'école ?
Depuis quand tu as ça dans ton âme et le plaisir de le faire et ton premier spectacle, même si c'était un spectacle amateur. Comment es-tu arrivé jusqu'à nous, finalement ?
Comment j'y suis arrivé ? La première fois, je pense que je suis monté sur scène, ça devait remonter au collège. On avait des cours de religion à l'époque. Et je faisais partie de ces cours. On m'avait dit, tiens, à la fin de tel événement, on va aller dans une salle des fêtes si quelqu'un veut faire un petit spectacle. Et moi, c'est vrai que j'étais pas forcément celui qui était le plus à l'aise socialement. J'avais monté un petit monde dans ma tête pour m'amuser. J'étais un peu seul, mais genre, en même temps, ça me convenait très bien. Et un jour, on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux essayer de monter sur scène ? Je me suis dit, pourquoi pas ? De toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et j'ai mis tout ce monde que j'avais construit dans ma tête sur scène. Et donc, les gens ont commencé à faire de grands yeux en disant, mais Yann, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tout d'un coup, il explose alors que d'habitude, il est plus en train de raser les murs, plus en train d'être dans son coin, etc. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait. On m'a demandé après de faire le spectacle de fin du collège où tout d'un coup, tout le collège m'a acclamé alors que j'étais un parfait inconnu. Et peu à peu, quand je suis allé au lycée, il y avait un petit club théâtre qui s'appelait Les Graines de Nul, que je salue, qui est un excellent club théâtre que j'ai intégré pendant 4 ans. On m'a fait découvrir des auteurs, on m'a fait comprendre ce que c'était la mise en scène, que c'était aussi l'esprit d'une troupe. Et c'est très agréable, l'esprit d'une troupe. C'est comme une famille, c'est comme une deuxième famille. On travaille ensemble, des fois on se chamaille, des fois on n'est pas d'accord, des fois on s'aime, des fois on fait des câlins et au final on fait un super spectacle tous ensemble avec ce vric-à-vrac de tout ce qu'on a fait pendant une année et c'était très très agréable.
Non mais ça vient de bien loin et d'ailleurs tu as été finalement le premier étonné d'avoir ce plaisir et de pouvoir exploser comme tu dis quand tu étais finalement face à plein de gens sur
oui,
une scène.
C'était la première fois qu'on me disait que j'étais vraiment doué à quelque chose. Enfin, on m'avait dit des choses un peu similaires, mais pas à ce point-là. Et ça faisait un peu chaud au cœur. Et moi-même, je me sentais familier à la scène, alors que j'avais jamais foutu les pieds dessus. Et même quand on me donnait des textes de théâtre, j'avais cette espèce d'instinct où je comprenais très vite ce que l'auteur ou l'autrice voulait dire, où est-ce que ça voulait aller, comment on pouvait le mettre en scène assez facilement. Mais peut-être parce que dans ma tête, comme ce que je disais, j'avais déjà tout imaginé. J'ai déjà imaginé des scènes de films, film, des scènes de théâtre où je connais le rythme, je sais la ponctuation qu'il faut avoir. Et tout était déjà un peu rythmé, donc je suis arrivé avec un bagage malgré moi sur scène, alors que je n'avais jamais foutu les pieds. Là où mes camarades de classe, qui étaient très à l'aise socialement, bégayaient et n'étaient pas du tout dans leur élément. C'était assez paradoxal.
Oui, mais c'est vrai que parfois on voit des gens qui sont très très discrets et qui effectivement, quand même sur certains chanteurs, moi j'ai le souvenir d'une chanteuse professionnelle sur une production à l'Opéra de Nantes, on l'aurait croisée dans la rue, jamais de la vie, on aurait pensé qu'elle était artiste lyrique, mais jamais. C'était une petite dame toute discrète, habillée de manière tout à fait neutre, qui ne faisait pas de bruit, rien du tout, et exactement comme toi, dès qu'elle était sur le plateau, on ne voyait qu'elle.
Ça explose.
C'est incroyable, c'est une autre dimension, enfin c'est une autre facette d'une personnalité.
Exactement.
En fait, selon où on met la personne, elle a un comportement différent. C'est incroyable.
C'est tout l'imaginaire qu'on a créé dans la tête.
Exactement.
Ça
c'est la richesse. C'est une richesse qui d'un coup explose. C'est incroyable. Et donc du coup, alors tu as commencé en amateur, donc ça, comme tout le monde, on commence tous en amateur. Et puis finalement, tu as peut-être eu envie un jour de prendre un vrai, entre guillemets, cours d'art dramatique, non ? Comment ça s'est passé par la suite ?
Les vrais cours d'art dramatique, je les ai commencés du coup après le bac. Avant ça, j'ai fait des troupes amatrices, donc le club théâtre du lycée. J'étais allé dans une petite troupe qui s'appelait La Grange Burclée à Masvaux, qui est dans la vallée en Alsace, où on avait retracé un peu les pièces de Molière. On avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait Molière malgré lui. On avait mélangé tout plein de pièces et tout. C'était assez chouette. C'était vraiment le théâtre du village et tout. Là encore, j'avais encore compris ce que c'était l'esprit de troupe. Enfin, je le côtoyais à ce moment-là. Et oui, après le bac, du coup, je suis allé au cours Florent de Montpellier, où j'ai pu vraiment expérimenter ce que c'était un cours de théâtre. J'allais plus à l'école pour faire de l'histoire, de la géo, tout plein de choses où je m'intéressais pas forcément à ça à ce moment-là. Mais j'y allais pour du théâtre, les choses vraiment qui m'intéressaient. Donc, j'ai pu apprendre encore plus d'auteurs, j'ai pu apprendre encore plus comment on mettait en scène, comment on dit des textes, comment on voyage dans tous ces textes, comment on travaille avec des gens qui sont extrêmement différents de nous. En parallèle, j'avais fait une école d'animateur radio. Justement. Ah, ouais. C'est pour ça que dans ce studio de radio, je suis chez moi et en même temps, ça me fait tout drôle, ça doit faire 7 ans que j'ai pas refoutu les pieds dans un studio de radio. C'est très, là j'ai le retour de ma voix dans le casque, ça fait très longtemps que je l'avais pas par exemple, et c'est toujours une expérience un peu étrange, un peu mystique.
Un peu mystique, carrément.
Oui, c'est un peu mystique, on n'entend jamais sa propre voix,
oui,
et là je l'entends
vrai.
Et c'est très agréable.
Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais que tu es le bienvenu à RDL 68, hein, quand tu veux, quand
avec
tu veux,
plaisir.
Avec grand plaisir, nous aussi, de notre côté. Alors donc, comédien, que tu commences sur les planches, tu suis un parcours d'abord amateur, ensuite tu vas au cours Florent, qui est un prestigieux cours d'art dramatique, et est-ce que finalement... Tu as fait de l'art dramatique, du théâtre, parce que c'était déjà en toi. Tes parents ne t'ont pas forcément orienté, ou ta famille, ou ton entourage, tes amis. Enfin, je veux dire, c'est vraiment toi qui t'es...
Oui,
qui
ça leur a fait très peur, d'ailleurs.
Dans ce trip-là,
on
finalement.
On n'est pas du tout dans un milieu artistique, dans la famille. Donc, quand j'ai commencé à leur faire comprendre que j'allais peut-être me professionnaliser là-dedans, ils sont allés un peu à reculons. Ma maman est allée voir mon prof de théâtre du lycée en lui disant « Vous êtes sûr vraiment qu'il faut l'encourager à faire ça ?» Vous savez, c'est pas vraiment le métier le plus sûr, le plus sécu, le... Et mon prof de théâtre disait « Non, mais il a la passion de ça, il a envie de ça, il peut se professionnaliser là-dedans. » Mais je comprends, aujourd'hui, je comprends un peu plus ma maman qui était très... qui avait très peur de ça, parce qu'un enfant qui fait un métier artistique, c'est jamais bien... Comment je pourrais dire ça ? C'est jamais rassurant, on sait pas où il va, on sait vu et en plus elle a pas la fibre artistique forcément, donc elle ne sait pas si c'est bien, pas bien. Elle voit juste un enfant qui a un rêve et peut-être qu'elle avait peur juste que je me prenne un mur en pleine face, ce que je comprends entièrement,
entièrement.
Et même quand j'étais au cours Florent, du coup, j'ai pu voir des gens qui étaient dans ce cas-là, qui pensaient être des grandes stars qui étaient doués mais qui au final ne pouvaient pas vraiment se professionnaliser parce que elles n'aimaient pas concrètement ça, elles aimaient juste se voir au théâtre, elles aimaient bien les amis qui leur disaient « mais c'est formidable ce que tu fais ». Mais ça va un peu plus loin que ça. Moi, je suis passé par là. J'ai toujours dit à mes collègues, je pense qu'à un moment donné, il faut se prendre peut-être une baffe dans la figure. J'ai commencé à faire du théâtre, donc je suis sorti un peu de mon cocon Et quand on sort de son cocon et qu'on devient, entre guillemets, la star du lycée ou du collège, on a tendance à avoir une grosse tête à ce moment-là. Et il faut toujours un petit moment où on se prend une petite gifle de la vie pour se dire non, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut apprendre. Tout n'est pas acquis. Je peux pas arriver sur scène et tout le temps me dire ah, mais je sais tout, vous ne savez rien. Ce qui m'est un peu arrivé en seconde année au lycée quand j'ai commencé à comprendre que j'étais un petit peu une star. Mais ça m'a un peu calmé un peu plus tard. Je me suis pris 2-3 baffes et j'ai fait ok, non, là on va apprendre des trucs. Et en fait, c'est chouette d'apprendre des choses. Aujourd'hui, j'adore découvrir des nouveaux projets, des choses que j'ai jamais faites. J'ai fait animateur dans une colo de vacances. J'avais jamais fait ça avant. On avait fait des émissions de radio, j'en avais jamais fait avant non plus. On avait monté des petits spectacles. J'ai envie de faire un... Non, je vais pas raconter ça parce que c'est pas encore fait. Mais j'aime bien.
Oui, il se passe beaucoup de choses dans ta tête, effectivement.
Oui, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Oui, mais j'ai toujours soif de découverte. Je suis assez jeune, en tout cas pour l'instant. J'ai envie toujours d'explorer des nouveaux endroits tant que je peux les explorer. Et c'est ça, pour l'instant, qui me passionne, c'est l'aventure.
Mais c'est très bien. Et pour faire une petite pause musicale, notre première pause musicale va être la chanson justement « Mes échecs ». Chanté par Hippocampe Fou.
Cette histoire, j'étais juste un pion. C'est très étrange, mais je la considérais comme ma reine. Tant que je la voyais au loin, je restais zen. J'aurais aimé lui proposer des balades à pied, même si ce n'était pas très cavalier. J'aurais voulu l'emmener au sommet de la tour infernale, passer de la verticale à l'horizontale. J'ai un chant l'extase dans ce monde carré. 64 cases où nous rencontrer. Elle était mariée à un roi de l'arnaque. Dans ses poches des pièces d'échecs en bois. Protectrice, elle ne voulait pas qu'on le mate. Il vivait caché, ne se déplaçait qu'à petits pas. Lui était tombé sous le charme d'une drag queen black et rêvait que celle-ci lui fasse le coup du berger allemand. Bref, des trucs hard, mais il gardait ses distances et n'en parlait pas à sa femme, évidemment. Cherchant l'extase dans ce monde carré. 64 cases où nous rencontrer. On dit que les échecs se répètent, mais ne se ressemblent pas. Je finirai par prendre cette traîne, ou bien c'est elle qui me mangera. On dit que les échecs se répètent, mais ne se ressemblent pas. Je finirai par prendre cette traîne, ou bien c'est elle qui me mangera. En tant que pion, je passais d'idées noires au blanc dans mes conversations. Mais j'avais de grandes ambitions, côtoyer ma reine, pénétrer son royaume et me transformer pour de bon. Mais ce jour-là, elle n'avait pas le moral. Elle lisait le journal en diagonale. Elle n'avait pas vu venir ce sombre fou qui l'a capturée. Elle a fini couchée dans une boîte pâle. Personne n'a entendu son mari se plaindre. Ma dulcine est disparue, je ne la verrai plus poindre. Mais j'avance tête haute, je n'ai plus rien à craindre. Si je quitte ce plateau, je pourrai la rejoindre. Cherchant l'extase dans ce monde carré. 64 cases où nous rencontrer. On dit que les échecs se répètent, mais ne se ressemblent pas. Je finirai par prendre cette traîne, ou bien c'est elle qui me mangera. On dit que les échecs se répètent, mais ne se ressemblent pas. Je finirai par prendre cette traîne.
Comédien ou pas?
J'espère qu'elle m'attendra.
Je reçois aujourd'hui Yann Delpoupeau, comédien de son état. Cher Yann, pourquoi as-tu choisi cet extrait, cette chanson ?
Elle est très sentimentale, cette chanson. C'était ma première copine que j'avais à Montpellier qui m'avait fait découvrir cet artiste qui est Hippocampe Fou. Et je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être parce que je me suis mis aux échecs il n'y a pas très longtemps pour me détendre. Et j'aime beaucoup, c'est un peu ce que j'aime dans les textes, c'est quand on fait beaucoup de métaphores, quand on fait des jeux de mots, etc. Puis là, il parle de termes d'échecs justement, en parlant justement d'une fille dont il est amoureux. Donc il y a toute une métaphore par rapport à ça. Et j'aime bien, c'est un peu ce qui me passionne. Et puis, ça me rappelle des petits moments sympas.
Oui, puis pour un comédien, aimer les mots, c'est un peu normal. Hein. C'est plutôt rassurant,
c'est
d'ailleurs.
C'est très rassurant.
Oui, c'est ça.
C'est un peu nos amis.
Ben, c'est ça. Et donc, est-ce que tu as déjà réalisé des mises en scène? Parce que donc, tu es comédien, mm-hmm. Ok. Est-ce que passer de l'autre côté, ça t'intéresse?
Ça m'intéresse. C'est pas ma fonction première. On m'a plus entraîné à être comédien, donc sur le plateau. Mais on a eu 2-3 expériences où justement on était plutôt chef d'orchestre des autres qui étaient justement à ce moment-là on the stage, comme on dit. Et je l'avais fait. Oui, on avait des exercices au cours Florent notamment où on devait mettre en scène toute l'équipe, mais ils étaient 20, donc c'était extrêmement compliqué. Au TNS, on a un tout petit peu fait ça.
Alors le TNS, c'est le Théâtre National de Strasbourg.
Exactement. Le TNS, Théâtre National de Strasbourg, que j'ai fait juste après le cours Florent. Donc j'ai fait 6 ans d'études, 3 ans à Montpellier, 3 ans à Strasbourg. Et oui, beaucoup, beaucoup de formations sur l'acting, un peu moins sur la mise en scène. J'en ai fait un peu. J'en avais fait notamment quand j'étais animateur pour une colo de vacances qu'on avait dans les Vosges. On avait pendant 2 semaines des jeunes ados de 15 à 18 ans. On devait monter un spectacle en 2 semaines. Et c'était très intimidant parce que je sais qu'à cet âge, on n'est pas forcément, enfin, on est très réceptif. Et c'est là aussi on va garder peut-être les premiers souvenirs du théâtre. Eux, ils n'avaient jamais fait de théâtre, donc j'étais un peu stressé parce que j'avais vraiment envie de leur faire une bonne impression et j'avais envie de les rendre curieux par rapport à ça. Et ça s'était très bien passé. On avait un thème, c'était la discrimination. C'était la discrimination, si je dis pas de bêtises. Et je leur avais demandé d'imaginer justement comment ça pourrait se mettre en scène. On l'a vraiment fait ensemble. Moi, j'étais, comme dit, le chef d'orchestre qui a mis, on va dire, tout le monde d'accord et qui a harmonisé le tout. Mais le but, c'était vraiment de leur donner les clés pour que ce soit leur spectacle et pas forcément le mien. Sinon, ça aurait été intéressant. Pour eux, je parle. À l'inverse, j'ai mis en scène et j'ai envie de mettre en scène un texte que je suis en train d'écrire.
Ah ouais, là, carrément, tu fais tout.
Et là, je fais tout.
Ah ben voilà, c'est le plus simple, finalement.
J'ai un texte que je suis en train d'écrire où je l'imagine plus. J'ai très envie de le jouer, mais j'ai pas envie d'avoir trop de casquettes parce que ce serait peut-être trop. Il faut d'abord que j'expérimente, que je vois comment ça fonctionne. C'est très difficile d'avoir des yeux partout, donc j'imagine plus une équipe avec laquelle j'aimerais monter ce spectacle et comment ça peut s'organiser. C'est plus une expérience pour moi.
D'accord. Tu écris tout seul ou tu écris avec une
j'écris
autre personne?
J'écris tout seul.
Ouais,
ce d'accord. qui est très difficile d'écrire ouais. tout seul. Ouais. Mais il faut trouver. Mais j'essaie d'écrire et je l'envoie à des personnes de confiance.
Voilà, c'est ça.
J'écris des scènes et je les ouais. envoie, je les fais lire. Je demande des avis à des gens qui, je sais, vont me faire un bon retour. Quand je dis un bon retour, c'est pas forcément des compliments. Enfin, c'est
oui,
pas
c'est
des
un
compliments.
Retour bienveillant, constructif.
C'est ça,
veux
constructif,
dire.
Qui ouais. me disent là, je trouve que ça fonctionne. Là, je trouve que ça fonctionne. Moi, j'ai pas compris tel passage. Ah, tu devrais développer tel autre. Le montrer à des amis pour qu'ils me disent ah, c'est super ce que tu fais sans construction. C'est
oui, ça ne sert à rien en fait.
C'est bien quand on est ado et on cherche souvent ça. On cherche du réconfort. Mais quand on essaie de se professionnaliser, c'est bien de l'envoyer justement à des personnes qui, on le sait, vont être objectives par rapport à ce qu'on envoie. Et donc voilà, de temps en temps, j'envoie par-ci par-là à des gens différents.
Quand tu écris, est-ce que tu penses déjà à certains comédiens de ton entourage
oui.
à qui tu donnerais des rôles?
Oui, 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 oui.
Et est-ce que c'est à eux que tu fais lire ou pas?
Oui, c'est à eux que. Pas que.
Oui, non, mais c'est intéressant ça.
Mais c'est assez dramatique parce que le problème, c'est que j'écris très lentement. J'ai le syndrome de la page blanche, des fois je fais des pauses, des fois je reprends, et en fait entre-temps je bouge, et même mes amis et les gens avec qui j'avais envie de monter ce projet bougent aussi et font oui. d'autres choses à côté, donc j'ai une équipe qui se disperse à droite à gauche, et des fois je me dis mais ça va être trop difficile de les réunir, je vais peut-être imaginer d'autres personnes, donc le texte bouge, mes envies d'écrire bougent, enfin il y a tout plein de choses qui bougent.
Mais c'est un processus très lent finalement, il faut laisser un peu infuser aussi, parce qu'on ne peut pas décider d'avoir de l'inspiration, on peut pas... ça dépend des jours en fait.
Alors des fois je me donne un coup de pied aux fesses même pour y aller, parce que ça fait un moment que je l'écris, cette pièce.
C'est-à-dire, ça fait combien de temps?
Oh,
Ah, d'accord.
Ça fait très longtemps. Ah, c'est parti d'un projet au cours Florent où justement je mettais en scène et ouais. Je jouais, et je sais que les deux casquettes sont compliquées. Je prenais un texte de Paolo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste, qui est un bouquin que j'avais adoré quand j'étais quand j'avais 18-19 ans. Et je me suis dit, mince, mais en pièce de théâtre, ça doit être chouette. Donc j'avais imaginé tout un procédé, j'avais piqué des mises en scène que j'avais vues à droite à gauche. C'est toujours comme ça en général dans le monde artistique.
On cherche des idées, en fait. C'est ça, des idées, c'est des sources d'inspiration, parce qu'après, ça va passer par ton filtre et tu ne vas pas copier, c'est impossible
de copier.
Non, on ne copie
pas,
en fait.
Mais on s'inspire beaucoup. Ouais, c'est ça. Dans tous les métiers, j'ai l'impression que c'est ça, on va toujours chercher de l'inspiration. Moi, j'avais vu une mise en scène qui était formidable, où le public était en cercle, où les acteurs et les actrices se changeaient sur le plateau pour incarner des personnages différents. Et c'est un truc qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais repris cette chose-là, et entre autres, et avec tout plein d'autres choses que j'avais vues. Et j'avais pris le texte de Paolo Coelho que j'avais réécrit en mode pièce de théâtre. Un peu plus tard, j'ai évolué. J'avais beaucoup aimé ce texte, mais je suis passé à autre chose et j'avais décidé d'écrire ma propre histoire en m'inspirant un peu de ce que j'avais déjà fait. C'est-à-dire, j'essaye de garder ce public qui est en cercle avec les acteurs et les actrices qui se changent sur le plateau. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup.
Donc, maintenant, l'histoire est différente. Ça veut dire qu'ils se changeaient de personnage. Mm-hmm. Voilà, c'est ça.
Ils changeaient de personnage et ils avaient toujours un accessoire qui définissait qui ils étaient à ce moment-là sur le plateau. Et c'était, me semble-t-il, Othello, variation 3 ou 4 acteurs, je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, eux, ils avaient des porte-manteaux vraiment à côté et ils enfilaient juste une veste différente avec juste un nom marqué sur la veste avec le nom du personnage qu'ils incarnaient à ce moment-là. C'était assez simple et c'était très efficace. J'avais pas forcément envie de reprendre le nom sur la veste, mais en tout cas cette idée de changement sur le plateau, je trouvais ça assez intéressant.
Mais ça fonctionne très bien, parce qu'il y a très longtemps j'ai vu ça, je ne sais plus sur quelle pièce de théâtre, peut-être au Festival d'Avignon, je ne sais pas, et je l'ai vu qu'une fois et je me suis dit, mais c'est fou, parce que quand même on comprend, et les acteurs changeaient de rôle, mais on comprenait l'histoire, c'était très clair.
Les gens savent que c'est de l'artifice, c'est du théâtre, donc c'est de la fiction. Et du coup, se changer sur scène pour rappeler qu'on... Enfin, pas pour rappeler qu'on est au théâtre, mais pour ne pas mentir au public, dire, bah, vous le savez, voilà, je vais juste intégrer un autre personnage, donc je me change devant vous, je vais intégrer quelqu'un d'autre, hop, j'y vais, je plonge dedans et je vous raconte l'histoire.
En plus, pour le comédien, c'est incroyable, parce que de jouer... bien sûr, jouer des caractères, des personnages différents sur une même pièce de théâtre, c'est incroyable.
C'est très satisfaisant. Mais au Fantastics, on a un peu ça. La comédie musicale qu'on fait en ce moment, je vais pas tout dévoiler, mais quand on change de personnage, quand on a des costumes très, très différents, c'est extrêmement jouissif.
Oui, c'est vrai. Et ça fonctionne très, très bien, là aussi.
Oui.
Vraiment, vraiment. Et donc, tu vas écrire ta pièce. Donc, rendez-vous est pris. Tu reviendras nous expliquer quand avertir. Quand elle sera terminée et quand il faudra qu'on annonce les dates de représentation, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, rendez-vous pris. Et tu joues, tu écris, on peut pas choisir, en fait, les deux sont intéressants. Qu'est-ce que tu préfères? Tu le sais à ce moment-là? Ou les deux sont complémentaires? Je ne sais pas.
Je préfère jouer, je pense. Je préfère mille fois jouer. J'aime trop... Peut-être parce que je suis fainéant. Enfin, parce qu'écrire, c'est très, très, très difficile. Et on peut faire jouer à de très mauvais acteurs un très bon texte et ça rend bien. À l'inverse, je pense qu'un très mauvais texte, le faire jouer par des bons acteurs, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Peut-être que je reviendrai sur cette métaphore plus tard, mais dans ma tête, ça fonctionne un peu comme ça.
Mais parions que ton texte sera très bon.
Oui.
Mais bien sûr.
Mais du coup, d'être dirigé en étant acteur, c'est peut-être un peu plus simple, parce qu'on a une ligne à suivre, j'exagère, parce qu'on invente toujours tout plein de trucs à droite à gauche, mais on n'a pas besoin de se concentrer sur toutes les choses qui est à côté. En tant qu'auteur, je pense que je réfléchis déjà à la mise en scène, je réfléchis déjà à avec quelle équipe je vais le faire, comment je vais les diriger, etc. Je pense à trop de trucs en même temps. Et même au fond de ma pièce, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça a un écho avec l'actualité, etc. Alors qu'acteur, je suis acteur un peu aussi.
Si, quand même, il faut réfléchir, je pense aussi. Il faut qu'on soit son personnage. Oui, bien sûr. On est aidé par le metteur en scène, souvent, je pense aussi.
Oui.
On est aidé. Bon, je vois que ça va à peu près 1500 à l'heure dans ton cerveau. Donc, de temps en temps, tu te détends. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre?
Ça m'arrive de me
détendre.
Je fais tout plein de trucs pour me détendre.
En ce moment, je joue
aux échecs.
Ah oui, tu joues aux échecs. Ça va. C'est assez calme. Ça fait travailler le cerveau.
Je suis très mauvais, mais j'aime bien regarder des gens qui stream, qui font du stream sur Internet et qui jouent aux échecs, qui me montrent des ouvertures et tout. Mais je fais tout plein d'autres trucs. Je peux me balader, j'écoute de la musique ou des musiques de films, des scènes de théâtre et tout dans mon casque. Et c'est où je joue à des jeux de société, des jeux vidéo. Je vois des amis. Ça me détend beaucoup de voir des amis parce qu'on se décontracte, on est soi-même. Et sinon, voilà.
D'accord. Pour nous détendre, un nouvel extrait musical ? Allons-y. Allez. Merci.
Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte que États-Unis, une vallée morte de jalousie, de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux, le soleil sans lunettes ni autre trucage. Droit dans les yeux, je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Un homme sans trucage.
Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui et ceux qui, comme lui, lacèrent les cieux de mille feux sans article, puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y.
Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur, sauve-toi, n'aie pas peur, ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda.
Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage. À mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge.
Je suis toujours en compagnie du jeune comédien Yann Del Pupo qui nous a qui a choisi cette chanson et qui va nous expliquer tout de suite pourquoi.
Pourquoi cette chanson ? Peut-être que c'est aussi sentimental, mais peut-être parce qu'il y a Jean Rochefort dedans. Non, c'était un ami qui m'avait fait découvrir cette chanson, qui était au TNS avec moi. On avait des cours de chant et on pouvait choisir la musique qu'on voulait, sur laquelle on voulait chanter, justement, expérimenter. Donc souvent, on prenait des chansons qui nous plaisaient. Et il y avait un ami qui s'appelle Gulliver, qui a fait les Fantastiques en plus, oui. Il y a 2 ans. Oui. C'était lui qui jouait Mortimer. Et il avait pris cette chanson que j'avais beaucoup aimée. J'aime beaucoup Dionysos, cette manière qu'ils ont de jouer avec les mots, d'avoir des textes un peu farfelus, même si j'aime pas forcément le mot. Puis un homme sans trucage qui rêve d'être un humain, je sais pas, ça me touche particulièrement. D'habitude, c'est un peu plus concret, les musiques. Là, j'aime bien quand ça part dans tous les sens.
Mais est-ce que c'est possible d'être sans trucage ?
Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Mais je pense qu'on est tous, pour revenir au métier de comédien, je pense qu'on est tous comédiens. Quand on n'est pas pareil avec notre famille, on n'est pas pareil avec nos amis. On met des masques différents selon les situations. En société, on met beaucoup de masques. Et juste au théâtre, je pense qu'on apprend un peu plus à en avoir conscience et à en mettre un en particulier pour un rôle, selon ce qu'on fait, etc. sur scène. Voilà, on apprend juste à en prendre conscience, c'est tout.
C'est ça, mais en fait, moi, je pense que c'est le rôle de notre vie de se connaître et de savoir qui on est, de faire le tour de nous-mêmes, quoi. C'est
plus dur au théâtre, enfin, en ce qui me concerne, la consigne la plus difficile que j'ai entendue d'un metteur en scène, c'est quand il me disait « sois toi-même ».
Ah ouais.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que moi, justement, pour me défendre, j'avais commencé à faire du théâtre et du coup à mettre un masque dans la société et j'ai commencé à me faire des amis comme ça. Et ce masque m'a pas trop quitté. Je les enlève quand je suis vraiment tout seul et que j'écoute de la musique et je suis un peu dans ma tête. Là, je pense que je redeviens moi-même. Mais l'être devant des gens, c'est très compliqué. Quand il me dit « sois toi-même », je fais « mais là, je peux pas, c'est pas possible ».
Mais est-ce que devant certaines personnes, on n'a pas plus de facilité à justement enlever les masques ?
Si, mais c'est des personnes qui se comptent, je pense, sur les doigts d'une main. Et je pense que c'est des gens... Ouais, on a une confiance infinie.
Illimitée.
Ouais, j'ai des très très bons amis. J'ai un très bon ami auquel je pense actuellement qui est à Montpellier. On est des enfants de 7 ans des fois. On se chamaille sur le canapé, on se charrie ensemble comme deux petits frères, mais on est vraiment nous-mêmes à ce moment-là et c'est des moments extrêmement agréables. Et pour rien au monde, j'arrêterais de le voir pour ça, quoi. C'est tellement agréable.
Mais oui.
Je suis plus moi-même avec lui que sur scène parfois.
Ah, bah alors non, on le dira pas à ton prof de théâtre.
Non, faut pas le dire.
Non, on le dira pas. Et donc finalement, quelles sont pour toi les qualités requises si aujourd'hui un jeune venait vers toi et te demandait bon alors comment qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut être, comment il faut s'organiser pour être comédien. J'ai envie d'être comédien. Qu'est-ce que tu lui réponds?
Je pense sincèrement qu'on est tous comédiens à des échelles différentes, mais je pense qu'on est tous comédiens. À la limite, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut être curieux. Qu'il faut tout le temps s'intéresser à des trucs, tout le temps. Faut garder, je pense, son âme d'enfant. Parce que quand on est enfant, moi, quand j'étais enfant, on faisait des cabanes dans la forêt, on prenait un bâton, puis on se prenait pour des chevaliers, et c'était très concret dans nos têtes, on était des chevaliers, et on s'amusait comme ça. Et quand on est sur scène, je pense qu'il y a un peu de ça. À ce moment-là, je suis un chevalier, et je sais qu'à ce moment-là, c'est vrai. Donc, garder une âme d'enfant, être très curieux, un peu de remise en question, pas trop, parce que des fois, c'est un peu nocif pour la santé mentale. Mais et il faut apprendre quand un metteur en scène, une metteuse en scène nous dit que ce qu'on a fait n'est pas forcément bien ou faut pas le prendre personnellement. C'est très difficile parce que on y met beaucoup de soi sur scène, mais faut pas trop le prendre personnellement. Faut mettre de la distance par rapport à ça, donc faut pour se protéger. Et voilà, mais je pense que tout le monde est vraiment comédien. C'est très philosophique ce que je dis, très niais peut-être. Mais...
Non, mais c'est bien, mais c'est bien parce que du coup c'est accessible à tous. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
C'est accessible à tous. Voilà. Et ça nous permet de prendre du recul sur beaucoup de choses aussi.
Certainement. Et ta vie d'artiste aujourd'hui, est-ce qu'elle est à peu près conforme à celle que tu as imaginée quand tu étais ado ?
Je l'imaginais pas du tout.
Ah oui.
J'ai eu l'ado quand je commençais à faire du théâtre et que je me rêvais star. Elle est pas du tout pareille ma vie. Elle est pas comme je l'avais imaginé parce que je me voyais très star. Après, je me suis pris la petite baffe dans le visage comme je.
On en prend
tout
tous un petit peu. Voilà. Hein, ça fait grandir. C'est pas grave, ça.
Je l'imagine pas tant que ça. J'imagine à un moment donné quand même finir cette pièce que j'écris et la mettre en scène. J'imagine la construire. Elle me va bien pour l'instant, ma petite vie. Je découvre des choses, j'apprends toujours. Chaque jour, j'apprends une nouvelle chose que je connaissais pas avant. J'apprends à connaître de nouvelles personnes que je connaissais pas avant, et ça, c'est très chouette. La vie de nomade, elle me va très bien. Ça, j'aime bien. Partir à l'aventure, ne pas savoir ce qui va se passer demain. Des fois, c'est très très angoissant. On sait que l'intermittence du spectacle, c'est pas forcément le métier le plus stable au monde. Hein. On accepte des contrats et quand c'est fini, on essaie d'en chercher d'autres. Et donc, des fois, on prend ce qui vient. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais vu que pour l'instant, j'ai toujours ma soif de curiosité, ça se passe bien.
Mais c'est parfait. Et tes prochains projets professionnels en tant que comédien, est-ce que ça se dessine un petit peu? Parce que là, beaucoup de temps est consacré à l'écriture de ta pièce.
Ouais.
Est-ce que tu as le temps quand même d'assurer des projets de comédien?
Ouais, je lance des hameçons à droite à gauche, je regarde où ça mord. Là, j'avais fait un stage, c'était il y a un an à peu près, à Paris, où on avait le droit à faire un stage consacré à Shakespeare avec un espèce de maître sensei qui a 88 ans, qui a fait du Shakespeare toute sa vie, qui est venu en France pour donner justement pas cours, il donnait pas vraiment cours, mais il nous a encadré pendant une dizaine de jours où on découvrait les textes de Shakespeare. Il nous mettait pas en scène, mais il nous posait des questions sur le texte, etc. Et c'était très intéressant parce qu'il avait toujours des réponses à tout, mais il nous disait, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là de telle chose? Alors nous, on débattait entre nous. Oh, on pense que c'est ça. Oh, tel personnage, je pense qu'il est comme ça, comme ça. Alors lui, pendant 5 minutes, il se taisait, il nous écoutait, la main sur le menton, il disait, moi, je ne pense pas du tout que ça se passe comme ça. Et
ah,
nous,
zut.
On l'écoutait. Mais toujours avec de la bienveillance. Et il était très intéressant. C'est un monsieur qui s'appelle Ron Daniels, qui a une modestie incroyable, et alors que il est très connaisseur dans ce milieu-là. Moi, je connaissais pas du tout Shakespeare. J'ai voulu vraiment faire ce stage pour découvrir encore plus cet auteur que je connaissais très très peu, enfin que de nom, parce qu'on connaît tous cet auteur, même si on n'est pas dans le milieu artistique. Et donc du coup, j'ai fait ce stage qui était formidable. Et un mois et quelques après, j'ai eu un petit coup de fil où on m'a dit, bah écoute, Ron Daniels aimerait bien monter Hamlet en France. Veux-tu faire partie du projet ? Alors évidemment, j'ai hésité.
Bah, bien sûr, je comprends bien.
Non,
ça
j'ai tout de suite
tu as sauté au plafond.
Et ça fait partie du jeu, c'est que pour l'instant, je n'ai rien signé. On n'a aucune production, on en cherche.
Ouais.
Donc on a essayé de le présenter à des directeurs de théâtre, directrices de théâtre. J'attends toujours des réponses, je regarde comment ça se passe. Donc c'est un projet en construction,
non,
comme
ma
pièce.
Ça va venir,
comme
ma
pièce de théâtre, rien n'est rien n'est construit, rien n'est signé, rien n'est concret, administrativement parlant, pour dire un mot un peu sale. Mais j'ai des projets dans la tête, juste à voir les hameçons. Quel gros poisson va mordre, quel est le plus gros poisson, je suis pas sûr de cette métaphore, quel est le poisson le plus gros qui va mordre à l'hameçon?
Ah bah, déjà, il faut qu'un poisson morde, déjà.
Oui.
Voilà, et ça c'est bien, et puis après, on voit ce qui se passe. Écoute, on arrive au terme de cette rencontre qui est finalement...
Là,
oui, voilà, c'est passé trop vite, je sais. Tu as gentiment accepté de te prêter au jeu du portrait chinois.
Oui.
Alors, ben, nous y allons.
Allons-y.
C'est prêt? Et tu es prêt? Si tu étais un animal...
Un animal. J'ai le droit de développer ou il faut que ce soit très...
Un peu court parce que tu développes beaucoup depuis le début.
Un peu court, jeune homme.
Alors oui,
c'est
ça. C'est un peu court, jeune
homme. Je veux dire le renard.
Le renard. Ah, rusé comme un renard?
Je sais pas, rusé, mais libre et un peu... Ouais, un peu sauvage, un peu... Il va à droite, à gauche.
D'accord. Si tu étais un peintre...
Un peintre, je veux dire Banksy.
D'accord. Si tu étais un paysage...
Le paysage de mon enfance, les montagnes, quand j'étais dans mon ancienne maison avec mes parents.
Et si tu étais un moment de la journée?
J'aimerais bien dire le café du matin, parce que c'est très agréable de voir le soleil se lever avec un petit café. Mais vu qu'en ce moment, je ne me lève pas forcément très tôt, je n'ai pas trop ce moment. Non, je vais dire le café après le repas.
D'accord. Si tu étais une salle de concert?
La Laiterie à Strasbourg.
Ah oui.
Très belle salle.
Très bon
très
choix.
Très petite, mais très belle salle.
Très bon choix. Si tu étais un type d'art?
Je vais dire conteur.
Ah oui,
j'adore conteur. Compter des histoires.
Et si tu étais un auteur?
Ça, c'est difficile. Si j'étais un auteur.
Pour aujourd'hui, parce que...
Pour aujourd'hui.
Voilà, parce qu'en fait, ça évolue tout le temps. Ça change
ça
tout le temps, je pense.
Ça évolue tout le temps, ça évolue tout le temps. Ah, c'est très
aujourd'hui,
difficile.
Aujourd'hui, là, tout de suite, hop, pouf.
Je veux dire Paolo Coelho, mais même si c'est pas ce que je suis en ce moment, mais c'est l'auteur qui me vient en tête là tout de suite. C'est celui... ma pièce était partie de Paolo Coelho, la pièce que j'écris, donc je veux dire Paolo Coelho.
Si tu étais un musée...
Alors, c'est particulier comme musée. Là, il va falloir que je développe. Je regarde une chaîne YouTube qui s'appelle Ego. Je vais faire très vite.
Oui, merci.
Il retrace la vie d'un peintre et il a fait une vidéo où il fait un musée virtuel où on se balade en voyant toutes les peintures de ce peintre, justement, qui s'appelle William Hunter. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est ce musée-là où on retrace la vie de ce peintre. Ego.
D'accord. Donc, on n'a pas le nom de... Si,
le
nom du musée.
Le nom du musée, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est le musée de Ego.
Ah, le musée de Ego.
Il retrace la vie de William Charles Hunter Mullen.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà qui est précis. Et pour finir, si tu étais un trait de caractère?
Le doute. Je doute en permanence.
Le doute.
Et le doute, c'est bien comme c'est pas bien. Des fois,
oui,
faut douter,
oui.
Et des fois, faut pas trop douter.
Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup douté pour parler de toi, de tes projets, de tout ce qui se passe dans ta tête.
Merci.
Je te remercie beaucoup, chère
merci
Yann.
Merci Sandrine de l'invitation.
Merci à toi, en tout cas. Je remercie Alena qui était aujourd'hui aux manettes.
Merci.
Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Et puis, à très bientôt sur les ondes de RDL 68.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Car encore Igor, il dort, mépris de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté, tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté, tic-tac, tic-tac, t'es cocu, qu'attends-tu? Quitte-toi, t'es cocu, tacataca, quitté, et quitter ton quartier, tacati t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tacati t'a quitté, hôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau. On t'attend t'attaquer, contre ta cocoté, quatre écoutes tout comptées, et quitte ton quartier, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catitas, qui n'est un coquère, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, d'un compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets, de quais, quand tout à coup, tic-tac, tic, oh, matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça. Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est donc
les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.